Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au forum du studio Kalangou dans une présentation de Balkissa Amidou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivrez sur Alternative FM 99.4 MHz, Kouartagui FM 90.9 MHz, Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook est Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org. Le forum du Studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation, de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité ou de société que vous vous posez régulièrement. Poursuivant la série sur la participation politique des femmes au Niger, le forum du Studio Kalangou s'intéresse aujourd'hui à l'impact de la formation et du coaching des femmes. Le ministère en charge de la promotion de la femme, les organisations internationales et nationales intervenant dans le domaine des femmes procèdent depuis quelques années à la formation de femmes de toutes les catégories sociales, notamment les femmes à la base, celles des partis politiques, des organisations de la société civile nigérienne, à leadership féminin, sur leurs droits, sur l'autonomisation et aussi bien d'autres aspects de la vie sociopolitique et économique. Pour mieux cerner le contenu de ces formations et leur efficacité, nous accueillons aujourd'hui des responsables d'ONG internationales et nationales qui ont fait de la formation et le coaching des femmes leur cheval de bataille. Nous avons dans ce studio Dr Fatouma Zenou, vous êtes chargée de programme au niveau de CARE International. Nous accueillons également Madame Nafissa Idé, coordinatrice de l'ONG FAD. Nous avons Madame Gambo Mariama, elle est présidente de la Fédération Bayrei Niamey Commune 3. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Comme annoncé, le forum du studio Kalangou porte sur l'impact de la formation et du coaching des femmes. Nous allons procéder à un tour de table. Nous allons commencer par vous, docteur. Présentez-nous votre structure et les activités que vous menez au niveau de CARE International.
Merci, madame. Merci pour l'invitation. CARE International est au Niger depuis 1974. Nous avons essentiellement trois programmes aujourd'hui. Un programme sur la sécurité alimentaire, un programme sur la réponse humanitaire et un programme sur le leadership des femmes et des jeunes. Et c'est dans ce programme que nous soutenons l'intervention relative à Mata Massoud Barra qui a vu le jour au Niger depuis 1991 dans la région de Maradi et qui est aujourd'hui la base sur laquelle nous avons bâti toute notre stratégie de promotion du leadership et de l'empowerment des femmes.
Et Nafissa, nous allons venir vers vous.
Et merci Balkissa, merci pour cette invitation. Donc l'ONG Femmes Action et Développement est une organisation de défense des droits des femmes au Niger. Elle a été créée depuis 2009 et nous intervenons dans plusieurs domaines de développement, à savoir la participation politique des femmes et la promotion du leadership féminin, l'autonomisation des femmes, la gestion non violente des conflits, l'extrémisme violent et surtout la scolarisation des filles.
Madame Gambo Mariama, présentez-nous votre fédération.
Donc, merci pour l'invitation. Notre structure elle est nouvellement fondée, mais avant elle, j'étais dans le système MMT.
Docteur, nous allons revenir vers vous. Le réseau Mata Massoud Barra créé par CARE, unique par son ampleur, poursuit un effort continu de formation et d'accompagnement des femmes. Pourquoi et comment avez-vous organisé l'accompagnement à leadership, formation, coaching des femmes MMD?
Alors, le processus d'accompagnement des femmes pour CARE dans ce cadre-là a commencé à partir des élections locales de 2004. Nous avons organisé cet accompagnement sur, je dirais, deux ou trois aspects. Un aspect, c'est la perception de la communauté en général, du rôle et de la place de la femme dans les instances de décision. Il faut que la communauté, les hommes et les femmes, dans le commun de leur esprit, que la participation des femmes dans la politique soit une chose qui paraît normale. Parce que ce que généralement les gens perçoivent que diriger c'est la place de l'homme, ce n'est pas la place de la femme. Donc nous avons travaillé sur ce volet-là, sensibiliser, informer, discuter avec les communautés en général, les hommes et les femmes, pour avoir leur perception et avoir l'opportunité d'échanger avec eux sur cet aspect. Nous avons également travaillé sur les potentiels candidats pour la préparation des élections de 2016. Les élections n'ont pas eu lieu finalement, mais il y avait un plus grand nombre de femmes qui étaient intéressées. Et vous avez vu la progression dans le temps. La progression est probablement liée au fait que non seulement les élections de 2004, après une longue rupture des élections locales, c'est revenu et la place des femmes n'est pas très bien connue et les femmes ne se sont pas positionnées elles-mêmes parce qu'il y avait beaucoup de barrières. Entre-temps, les choses ont évolué. Plusieurs acteurs comme nous ont travaillé là-dessus. Et une des choses que nous avons faites, c'est vraiment motiver la participation des femmes, les intéresser à jouer un rôle dans les élections locales en tant qu'électrices, mais aussi en tant que potentiel élu. Donc ça, je pense que ça fait partie des choses qui ont permis l'accroissement de la participation des femmes. On voit dans les trois cycles comment est-ce qu'en 2016, on a eu autant de potentiels candidats. Mais après cette étape de potentiels candidats, finalement, les candidates vont choisir, seront retenues dans leur parti politique. Donc nous avons un paquet de formations que nous faisons à ce stade-là, une fois que les femmes sont identifiées, sont retenues dans leur parti politique pour les accompagner. Et après les élections, parce que nous savons que même après les élections, il y a plusieurs choses à comprendre. Le Niger, c'est une jeune démocratie. Nous avons tous à apprendre dans le domaine de la démocratie, autant les hommes que les femmes, autant les partis politiques. Donc l'exercice démocratique d'apprentissage est long et fastidieux et donc on a besoin de certains supports. C'est à ça que nous essayons de contribuer à cette étape-là.
Combien de femmes vous avez formées dans le cadre de ce programme?
Alors, les 1079, ça c'était en 2016. En 2011, c'était autour de 400. En 2004, c'était beaucoup moins que ça, une centaine, parce que même l'intérêt n'y était pas. C'est pourquoi, entre les cycles, nous avons travaillé beaucoup sur susciter l'intérêt.
Parmi elles, combien ont pu accéder à des postes de décision?
Vous savez que les élections de 2016 n'ont pas eu lieu finalement, les élections locales. Mais pour 2011, on a quand même pratiquement 50% des femmes ont pu être élues dans leur localité. 50% des femmes que nous avons accompagnées. On n'a pas d'autre chose de comparatif. Mais nous estimons que c'est déjà un bon point d'avancée d'avoir autant de personnes qui se sont fait élues. Bien sûr, les échecs, c'est tout à fait normal. Il y a des femmes qui ont échoué. Même pouvoir s'inscrire dans la liste électorale a été difficile pour elles. Mais finalement, ceci a été leçon et c'est ça qui a suscité encore d'autres candidats, d'autres intérêts à partir de 2016. Donc nous estimons que près de 50% de réussite, c'est quand même une bonne chose.
L'origine de ces femmes le plus souvent rurales et analphabètes constitue-t-elle un défi supplémentaire?
Alors l'analphabétisme, c'est une question cruciale au Niger. Ça concerne autant les hommes que les femmes, mais beaucoup plus les femmes avec le taux d'analphabétisme. Oui, ça constitue un problème et ça a été au début une des raisons d'acceptation et de compréhension. Par exemple, il y a eu beaucoup de situations où les femmes, quand elles déposent les dossiers, elles ne savent pas trop quelles pièces il faut mettre. Et même quand on leur explique, ne sachant pas lire et écrire, elles ont des difficultés à identifier quelles sont les pièces qu'il faut mettre. Et ceci fait beaucoup de va-et-vient et parfois les retarde jusqu'à les mettre en retard dans le processus de dépôt des dossiers. Mais quand même, avec les formations, le soutien entre les femmes et l'accompagnement, on arrivait à régler certains aspects de problèmes. On a aussi l'exemple d'une femme aux élections de 2011. Elle est aussi analphabète, mais elle avait eu la formation, elle a bâti campagne, elle a mobilisé les voix pour son parti politique. Mais finalement, quand son parti politique a obtenu le nombre de sièges, elle n'était pas retenue par son parti politique. Elle avait démontré que dans sa zone où elle avait bâti la campagne, elle a pu quand même avoir cette capacité de démontrer parce qu'elle a fait un comptage de voix et tout. Elle a pu faire ça. Mais ce qu'on avait raté à cette époque, peut-être c'est lié à l'analphabétisme, peut-être c'est aussi lié à la connaissance de tous les processus électoraux, y compris les recours. Le recours qu'elle a fait était trop tardif et donc elle n'a pas eu gain de cause. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans la commune où elle s'était positionnée, cette commune n'a toujours pas de femmes dans son conseil communal.
Nafissa, est-ce qu'il y a des raisons qui vous poussent à former les femmes?
Je pense que les raisons sont énormes. Si vous prenez le cas des pays africains, aujourd'hui, rien que le quota, on sait que le Niger est un parti qui a été pris comme exemple en ce qui concerne la loi sur le quota. Mais aujourd'hui, le Niger est en retard par rapport à ça. Au moment où certains pays sont sur la parité, nous, c'est en ce moment nous sommes en train de négocier 30%. Moi, je pense que, comme elle a eu à le dire, la scolarisation des filles, l'éducation, l'alphabétisation des femmes, c'est vraiment l'un des facteurs sur lesquels il faut se pencher si nous devrons faire la participation politique des femmes. Pourquoi ? Parce que, regardez, rien que le lot des femmes qui font la politique au Niger, la majorité sont analphabètes. Et celles-mêmes qui sont instruites ont des limites, non seulement au niveau du français, au niveau de la communication, mais au niveau même de leur capacité à défendre leurs intérêts dans leur parti politique. Parce que tout le défi se trouve à ce niveau. Nous, les femmes que nous sommes en train de former aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons? C'est d'abord qu'elles soient influentes dans leur parti politique. Parce que si elles ne sont pas influentes dans leur parti politique, elles ne peuvent pas être candidates en 2021. Si elles ne sont pas influentes dans leur parti politique, elles ne seront pas dans les instances de prise de décision de leur parti politique. Donc, c'est à ce niveau que nous essayons de jouer avec ces femmes-là. Ce qu'il faut constater aussi au Niger, certes, il y a des femmes qui se manifestent pour faire de la politique. Mais regardez le nombre de ces femmes-là. La majorité ignore pourquoi elles font la politique. Elles n'ont pas vraiment une ambition politique, si je peux le dire. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui, toi qui t'es inscrite sur la liste d'un parti politique et tu te limites à juste manifester, à juste mobiliser. Si on te demande quelle est véritablement ton ambition politique, qu'est-ce que tu veux devenir dans ce parti politique, tu es incapable de répondre. C'est pourquoi quand on a formé en 2016, on a formé 120 femmes. On a donné vraiment la latitude à ces leaders politiques-là d'identifier leurs jeunes femmes de 18 à 35 ans. Et on suppose que c'est peut-être les meilleures femmes qui ont été sélectionnées. Mais après, on se retrouve parmi ces 120 femmes, certains qui ignorent même c'est quoi la politique. Si on leur demande c'est quoi votre slogan, est-ce que vous connaissez les textes de vos partis, elles sont incapables de répondre. Donc on était confronté à un problème où on était obligé de sélectionner parmi ces 120 femmes-là 40 pour former le comité des femmes mentors en politique. Et ce comité-là, leur mission, c'est vraiment de faire la promotion du mentorat au sein de ces partis politiques. Aujourd'hui, on a mobilisé 11 formations politiques en dehors des réseaux. Il y a des réseaux des jeunes politiques qui ont été formés et le RJPAO. Donc, parmi ces 40-là, même là, nous sommes en train de voir combien sélectionner pour espérer en 2021 avoir vraiment un potentiel de femmes capables d'aller aux élections. Moi, je pense que le mieux, c'est de travailler avec celles qui ont la volonté, celles qui ont l'ambition, celles qui connaissent leur rôle et responsabilité dans la politique. Parce que le contexte de démocratie au Niger ne favorise pas une bonne participation politique des femmes. Même les hommes politiques ont des problèmes, à plus forte raison les femmes. Donc c'est à ce niveau que nous sommes en train de se pencher.
Puisque vous parlez d'accompagnement, quel type d'accompagnement vous proposez à ces femmes?
Et pour le moment, avec le partenaire qui nous accompagne, qui est basé à Washington, c'est un accompagnement vraiment de renforcement de capacité. Parce que plusieurs femmes ont fait mention de cela. Elles ont besoin de formation. Sur les séries de formations qu'on a eu à faire, on les a formées sur plusieurs notions, à savoir le leadership politique, le leadership féminin, la participation politique des femmes, le rôle et responsabilité des femmes dans les partis politiques, et sur les textes aussi, en faveur des droits des femmes, parce qu'il faut aussi que la femme politique maîtrise ces textes-là.
Et au-delà de la formation, vous avez créé un dispositif de mentoring, le comité des femmes à mentor politique, qui regroupe des femmes des partis politiques qui défendent la cause féminine. De quoi s'agit-il exactement?
Comme je viens de le dire tout à l'heure, le COFEMEP, c'est un comité des femmes mentors en politique. Nous sommes sur une série de projets avec notre partenaire. Le premier projet, on a formé 120 femmes de 11 formations politiques. Le deuxième projet, on a identifié parmi ces 120 femmes, 40 pour former le comité des femmes politiques. Cette année, nous avons mis l'accent sur la restitution, sur le niveau de compréhension de ces femmes-là, de leur rôle et responsabilité dans la politique. Qu'est-ce que nous constatons? Parmi ces femmes-là, comme je l'ai eu à le dire, ces femmes-là qui ont été formées, la majorité ignorent pourquoi elles font la politique. Donc il faut amener ces femmes-là à comprendre leur rôle et leur responsabilité en vie politique. Si tu te décides à faire la politique, voilà quelle voie à suivre. Notre mission, c'est quoi? C'est vraiment d'approcher ces femmes-là de leur leader politique. Parce qu'une femme ne peut pas être influente dans son parti politique si déjà tu es loin de ton leader politique. Donc notre mission cette année, c'est vraiment d'approcher ces femmes-là de leur leader politique, qu'ils comprennent que la femme a une place dans la vie politique. Donc elle doit être dans les instances de prise de décision de ses partis politiques avant de se porter candidate pour les élections à venir. Et je pense qu'avec les séries de restitutions qu'on a eu à faire, il y a eu beaucoup de leaders politiques qui ont fait des promesses, qui ont encouragé leurs femmes politiques. Prochainement, nous sommes en train d'organiser des tables rondes qui vont regrouper tous ces leaders politiques-là. Ils vont prendre officiellement des engagements que nous allons suivre d'ici 2021, Inch'Allah.
Madame Gambo Mariama, quel intérêt ces formations apportent-elles aux femmes bénéficiaires comme vous?
Vraiment, l'intérêt, on n'a même pas besoin de le dire. Parce que toute femme ou tout être humain a besoin d'être formé. Car le monde avance. Et quand le monde avance, il y a toujours des petits changements qui arrivent. Même si tu crois avoir tout connu, je pense que matin tu vas te lever qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas qui vient d'arriver. Donc si tu n'es pas formé, tu as des problèmes. Donc ce que je peux dire, c'est que la formation n'est jamais de trop. Mais dites-vous qu'on en a besoin, on aura toujours besoin de formation. Car si aujourd'hui nous sommes formés, il y en a qui n'ont jamais été formés. Et nous voulons à ce que tout le lot avance ensemble. Oui, FAD ne prenez pas seulement que 40. Allez-y au-delà de 120. C'est votre début, c'est bon. Il faut mais aller à grands pas pour avoir plus de femmes à former.
Nafissa, comment parvenez-vous à travailler en même temps avec les femmes de différents bords politiques, mouvances, oppositions?
J'avoue, ça n'a pas été facile. On était confrontés à plusieurs difficultés au début, parce qu'il y a certaines qui disent que comment est-ce que FAD fait pour héberger deux partis politiques, les pires ennemis reconnus sur le plan national. La stratégie que nous sommes en train d'adopter, c'est d'abord inculquer à ces femmes politiques-là que leur mission, ce n'est pas pour défendre leur parti politique. C'est pour représenter leur parti politique, maintenant défendre le droit des femmes au niveau de tout bord politique confondu. Au début, elles ont compris, mais après, avec des interférences, si je peux le dire, de certains, de détruire ce que nous sommes en train de réaliser. Donc parmi ces femmes, les partis politiques, au début c'était 12 formations politique. Mais il y a une formation politique, il y a un parti politique qui s'est retiré. Sans lui, peut-être le comité va disparaître ou bien nous, on sera confrontés à des difficultés pour abandonner cette mission. Mais ils ont compris que c'est elle qui était perdante. Parce que l'idée, c'est quoi? Ce parti politique, ce qu'on a compris, les femmes qui ont assisté à nos formations, elles sont très jeunes. Maintenant, avec la formation qu'on leur a donnée, elles ont pris de l'expérience. Elles ont adopté une posture au sein de leur parti politique où déjà l'influence a commencé.
Il y a
un changement de comportement et elles sont beaucoup plus conscientes de leur rôle dans le parti politique. Donc, pour certaines femmes, leur aîné, c'est tout à fait normal. C'est un obstacle parce qu'elles voient ces femmes-là arriver, peut-être qu'ils peuvent occuper leur place. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est d'influencer ces femmes-là, jouer au niveau de leur niveau de conscience pour les décourager. Et elles ont voulu même partir avec leur parti allié. Mais elles, comme elles sont conscientes, parce que c'est ce qu'elles disent toujours, c'est qu'elles reçoivent de FAD, elles n'ont jamais reçu, même au sein de leur parti politique. Donc pourquoi abandonner?
Il y a eu un obstacle sûrement au début. Comment vous avez pu surmonter cet obstacle?
Je pense que les obstacles, ça ne manque pas. On tire des leçons. Mais la meilleure façon de faire face à ces obstacles, moi je pense que c'est la communication. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les membres de ces partis politiques-là. On communique avec elles. S'il y a un problème, on s'assoit sur une table, on discute et on arrive vraiment à un consensus.
Docteur Zainou Fatouma, vous êtes engagée dans une initiative intitulée Win With Women, gagnée avec les femmes, quel travail avez-vous pu accomplir dans ce cadre et quel bilan tirez-vous?
C'est toute une autre démarche par rapport à FAD et j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre et partager ensemble. Notre approche sur les groupements Mata Masudbara existants. Et donc, ce n'est pas des femmes qui viennent des partis politiques, mais c'est des femmes qui sont dans des structures organisées des femmes, parmi lesquelles on identifie les leaders qui peuvent être intéressés à participer à la politique. Et c'est peut-être ça la différence avec, mais je pense que les choses se résolvent plus tard, parce que ces femmes-là viennent quand même des partis politiques à la fin. Donc nous, ce qu'on a fait, comme je disais tout à l'heure, on a essayé de regarder l'accompagnement. Alors, on s'est surtout positionné au niveau des élections locales et particulièrement au niveau rural, parce que c'est là la présence de nos activités le plus. Accompagner les femmes pour qu'elles préparent. Madame de FAD a donné déjà quelques exemples sur les modules que nous utilisons également, mais nous avons ajouté aussi comment battre sa campagne, qui est un module très important pour les gens qui se positionnent dans la politique, sur lesquels nous avons beaucoup mis l'accent, surtout en 2011. Alors là, ces modules-là, on les fait surtout pour les candidats déjà retenus par leur parti politique. Donc quand on fait la formation sur les candidats potentiels, sur les textes, les choses en général, et de façon spécifique maintenant, quand les candidates sont connues, là, elles, on leur fait des formations spécifiques comme comment battre sa campagne, comment tu fais ton plan au niveau, comme elles disent, ton ambition politique, c'est sur quoi, sur quel aspect tu vas défendre ta position, etc. L'avantage pour nous, c'est que ce sont déjà des femmes organisées en structure, elles ont déjà reçu une série de formations et d'accompagnements, et ça vient d'elles, ce besoin d'aller plus loin, de participer dans les instances de décision, la défense de leurs droits, venait d'elle. D'une certaine façon, on a bâti sur quelque chose déjà existant que nous a permis de faire avancer les ambitions déjà existantes. Mais ça nous a aussi amené à partir de 2012 avec le CNDP de travailler avec les partis politiques parce que les femmes ont soulevé plusieurs aspects comme blocage. Les aspects au niveau de la famille, généralement, c'est réglé par elles-mêmes ou par les autres membres du groupement. Les aspects au niveau de la communauté en général où il est mal perçu qu'une femme dirige, qui sont plus ou moins réglés avec des exemple des stéréotypes où de plus en plus on constate que, comme il y a des exemples aujourd'hui vivants, des personnes qui ont été élues, qui ont fait des choses positives et aussi toutes les activités, c'est là que nous faisons les activités de sensibilisation à l'endroit des communautés. Nous travaillons aussi avec les leaders hommes au niveau de la communauté parce qu'ils jouent un rôle d'influence important au niveau des communautés. Mais aussi à partir de 2012, nous avons commencé à travailler avec les leaders des partis politiques pour discuter avec eux de la place qu'ils font pour les femmes. Et je pense que ça, c'est l'un des plus gros défis pour les femmes, leur positionnement au sein de leur parti politique. Parce que la structure des partis politiques est telle que si vous ne faites pas partie des membres fondateurs, si vous ne faites pas partie des grands ténors, et j'apprécie le travail de IFAD de dire que rendre une femme potentiellement influente dans son parti politique, tout en restant dans la droite ligne de la vraie démocratie, de la bonne gouvernance, de plutôt porteuse des choses positives et non pas dans le sens où ça dérive. Parce que nous savons, avec les êtres humains, il y a toujours des dérives. Cette discussion avec les partis politiques, je me rappelle que justement, on avait autour d'une table les partis politiques venant de différents partis politiques, mouvances, oppositions et autres. Et quand nous avons montré certains résultats de certaines analyses et de l'histoire du Niger, où était la place des femmes dans le gouvernement, dans le parlement et dans le niveau municipalité, après, c'est eux-mêmes qui nous ont dit pourquoi vous voulez qu'on fasse la discussion par groupe de partis politiques. La question de la participation des femmes est un problème commun à tous les partis politiques. C'est important que les partis politiques partagent leur histoire, partagent leur expérience et voient qu'est-ce qui peut s'améliorer dans ce contexte-là. C'est ça le problème commun. On a fait une analyse par la suite pour regarder quelle est la présence des femmes dans les instances de décision des partis politiques et il y avait des partis politiques qui ont refusé de donner les informations. Pour nous, ça c'est parlant. Si vous ne voulez pas dire au sein de vos organes dirigeants qui sont hommes et femmes, c'est que vous n'êtes pas prêt à vous ouvrir à la participation dans votre structure. Et c'est assez parlant et je pense que les choses aujourd'hui ont commencé à changer. On voit de plus en plus des leaders de partis politiques qui défendent et protègent la participation des hommes, des femmes, des jeunes. Donc créer l'espace pour chaque acteur parce que chacun a forcément des choses à amener dans la vie de ce parti politique et dans la vie du pays pour lequel on est en train de créer des partis politiques et on est en train d'aller dans cette dynamique.
Vous délivrez des formations directement politiques. Sous quelle forme, à travers quelle progression?
Nous faisons des paquets de formations en s'inspirant des différentes différentes expériences en tirant les leçons. Parfois, on met des experts. Par exemple, quand il s'agit de faire les informations sur les textes, nous faisons recours aux personnes qui sont plus attitrées pour parler des textes. Le code électoral, les chartes des partis politiques, la constitution. Dans chacun, par exemple, nous avons fait une sorte de recueil dans tous ces textes-là, des aspects qui parlent de la participation égale des femmes et des hommes. Pour faire comprendre aux gens que ça existe dans les textes du pays. C'est dans la mise en œuvre que les gens ne les voient pas et où ils ignorent. Un exemple, c'était la loi de quota. Quand nous avons fait des sessions d'informations sur la loi de quota, autant aux femmes qu'aux hommes dans les partis politiques, beaucoup de gens étaient en train de dire « Ah, mais nous souvent, et on a entendu ça avec l'étude que Andy Haï a fait en 2011, la loi de quota commence à devenir une limite. Parce que dans un parti politique, les hommes ont tendance à dire aux femmes « Vous avez vos 10%, vous voulez quoi de plus ?» Comme si les 10% sont devenus le maximum, alors que c'est le minimum nécessaire. Et nous savons que même à 10%...
Et c'est l'un ou l'autre sexe.
Et c'est l'un ou l'autre sexe. Donc la compréhension même de ces textes n'est pas tout à fait évidente pour le commun des militants dans un parti politique. Et je pense que beaucoup de partis politiques ont souligné l'absence ou l'insuffisance d'informations de leurs militants sur ces différents aspects. Et seulement une poignée de gens au sein de ces partis politiques connaissent. Et je pense que ceci ne favorise pas la participation des différents acteurs et particulièrement des femmes qui ont moins de temps pour s'informer. Tout à l'heure, elle disait comment tu peux comprendre que tu es dans un parti politique, que tu es engagé et que tu ne connais pas ton ambition. Quand vous regardez l'agenda de la femme et l'agenda de l'homme, les hommes ont plus de temps de s'informer, de se former que les femmes. Et si on ne crée pas des circonstances particulières pour cela, nous serons toujours dans cette situation. Donc je pense que de cet aspect, donc, nous préparons des modules, parfois avec des experts. Parfois, nous créons des sessions d'échange. Par exemple, des femmes qui ont connu des succès ou des échecs, nous mettons en face des autres qui aimeraient, ça c'était surtout en 2016 tirant les leçons, nous les mettons en face et elles racontent leur histoire, elles se posent des questions et chacune apprend de l'expérience positive ou négative de l'autre. Nous avons connu des expériences qui viennent des familles, des femmes. Par exemple, une femme, c'est son oncle qui est aussi candidat à la mairie et qui la pousse à dire « mais toi tu dois résister ». Et tous les oncles et les tantes viennent lui dire « mais comment est-ce que tu vas te confronter avec ton oncle ?» Et nous on lui dit « mais pourquoi est-ce que lui, ton oncle, se confronte avec toi ?» Donc de la même façon, alors cette pression familiale, l'idée c'est pas seulement former les gens, c'est de créer un espace où les gens expriment les difficultés auxquelles ils font face et que quand ils écoutent les autres peuvent dire « moi face à cette difficulté, voilà comment j'ai pu faire » ou bien ensemble on peut dire comment on peut faire. Mais la difficulté contre laquelle je pense qu'on n'a toujours pas de solution, c'est cette attitude au sein des partis politiques où ils organisent des réunions tardives nuitamment, où le matin les décisions sont déjà prises, on sait déjà qui sont les candidats retenus, etc. Celles qui sont potentiellement là et qui pouvaient participer n'ont pas pu participer. Et ce genre d'exemple, on s'est dit, mais pourquoi eux, les hommes, ils font des réunions à 1h du matin, comme si eux-mêmes ne doivent pas être à 1h du matin dans leur famille.
Quel impact ces formations ont-elles eu sur l'engagement politique des femmes et surtout sur leur survie politique? Les enquêtes ont montré que beaucoup de femmes ne sont pas reconduites à un deuxième mandat.
Exactement, ça c'est le constat amer. La survie politique des femmes est beaucoup plus faible que celle des hommes. Bon, de mon point de vue, je pense que c'est normal parce que il n'y a pas longtemps que les femmes ont commencé à s'engager. La loi de quota a joué un rôle important pour la participation des femmes. On se souvient de cette assemblée de 93 députés où il y avait une seule femme. Pour moi, c'est une honte pour le pays, comme si c'est la seule femme qui est capable de faire quelque chose. Mais l'autre chose, c'est que les femmes ne sont pas intéressées à la participation politique parce que la politique est vue comme quelque chose non seulement pour les hommes, mais aussi quelque chose de trop confus, peut-être même obscur, qui fait peur aux femmes. Et je pense qu'un des rôles de toutes ces formations, c'est de créer un intérêt en montrant que ben, c'est par cette voie que vous allez prendre les décisions pour votre pays, pour votre communauté, pour que les choses changent positivement. Et c'est ça qui amène les gens à se dire, oh mais oui, de loin, on a l'impression que c'est opaque et tout. Mais quand on rentre dedans, peut-être qu'on peut participer à mieux comprendre et à apporter sa contribution dans l'évolution du pays, en sachant que c'est à travers la politique que tout se fait de toute façon. Que, comme on dit, si tu ne la fais pas, elle te fait. Donc, vaut mieux faire partie des acteurs que de ne pas faire partie des acteurs. Donc ça, c'est un aspect très important. L'évolution, vous avez vu, avec 112 en 2004 à 1060 et quelques, ça montre l'intérêt. Ça montre de l'intérêt qui s'accroît. C'est déjà ça. FAD a commencé avec 120. Ils sont en train de voir 40 et parmi les 40, encore la crème des crèmes. C'est un processus particulier, mais c'est comme ça. Il faut commencer avec la grande masse. Si l'intérêt y est, les particuliers, la crème des crèmes va sortir de cet intérêt-là. Et s'il y a pas de ressources pour accompagner la grande masse, il y aura peut-être des ressources pour accompagner celles qui montrent l'intérêt. Ça montre vraiment des résultats positifs. Les femmes qui sont formées, même quand elles ne sont pas, ce qu'on a vu sur le terrain, même quand elles ne sont pas retenues comme candidates ou dans leur parti politique, elles continuent le militantisme, elles continuent à informer les autres. Elles partent, une fois qu'elles ont acquis du savoir-faire, de l'expérience, elles la valorisent dans leur vie quotidienne et elles se disent que oui, la prochaine fois. Cette étude qui a démontré la survie très faible pour les femmes, nous on a écouté des femmes où qu'elles ont des expériences amères et particulièrement une des expériences venant de leurs proches qui ne les a pas encouragées à continuer le prochain mandature. Mais je me dis que c'est tout à fait normal qu'entre 2004 et 2011, c'est juste deux mandatures. Donc donnons le temps au temps, donnons le temps aux gens de comprendre, de s'engager, de souffrir et de sortir de cette étape pour vraiment voir que rien n'est facile dans la vie. Parfois, c'est la situation de leur famille qui les oblige à changer d'attitude et dire « Ouh, moi, je ne pourrais plus revenir. » Les insultes auxquelles j'ai fait face, et les maltraitances auxquelles j'ai fait face, mon mari qui s'est mis à prendre deuxième, troisième, quatrième épouse juste pour m'emmerder, c'est quand même dur pour certaines femmes, même si c'est quelque chose qui pouvait arriver en dehors de ces circonstances. Si c'est fait dans ce sens, c'est un message clair de la part de cet époux-là, et c'est des exemples réels que nous avons connus. C'est un exemple clair, un message clair, mais quel aurait été le message alors de cette épouse ou de cette famille ou des autres épouses face à cette situation? Je pense que ça rentre dans des domaines personnels, que quel que soit le coaching, quel que soit l'accompagnement qu'on peut faire, c'est assez difficile de voir jusqu'à où notre appui en tant qu'accompagnateur peut soutenir la personne.
Madame Gambo Mariamani, de quel type de formation ou d'accompagnement avez-vous bénéficié?
Nous avons bénéficié de plusieurs types de formations. Mais auparavant, j'aimerais parler un peu sur ce que vous venez de dire là, que quand la femme s'engage en politique, ou surtout les cas des femmes élues, qui ne reviennent plus, le plus souvent, il y a des problèmes, comme Nafisa a expliqué. Quand on voit qu'au mandat où la femme a participé au conseil, c'est une femme qui émerge, qui a de bonnes idées. Donc cette femme-là, on fait un montage pour lui empêcher de revenir. Parce que prochainement, si le parti constate que vraiment cette femme-là, elle est dynamique, elle peut ne pas s'arrêter là où elle est. Donc, il ne faut plus qu'elle revienne. Et souvent, c'est trop tard parce que si elle ne revient pas en tant qu'élu, comme l'a dit docteur Zenou, elle s'est déjà engagée, elle a déjà appris beaucoup de choses. Et de l'autre côté, elle ne va pas reculer. Et elle va aussi les aider et prendre les mains des autres pour monter ensemble avec elle. Donc le tout, ce n'est pas d'empêcher à cette femme-là de revenir, mais sachez qu'elle a déjà acquis beaucoup de choses, ce qui pouvait avantager les autres femmes. Donc, en ce qui concerne les formations que nous avons reçues, avec surtout CAIR International, moi je suis certaine que les femmes MMD ont reçu tellement de formations qu'elles sont capables partout où elles seront. La toute première formation qu'on donne avec CAIR, c'est la vie associative. Tout celui qui sait vivre avec l'autre, moi je pense que celui-là, il est bien parti. Et on nous donne des formations en ce qui concerne la gestion des AGR, ce qui concerne la politique. Et en politique, comme l'a dit Dr Zenou, nous avons reçu tellement de formations que les candidates potentielles étaient des vrais candidats. Même si les partis politiques ne voulaient pas voir les femmes qu'il faut. On prend toujours les femmes qui applaudissent, les femmes qui disent oui, qui ne leur diront jamais non, pour faire d'elles des candidates, parce que après, quand ça va un peu aller un peu plus loin, et vous savez qu'elle est capable de dire non, voilà ce que je veux pour la femme, alors que celle qui dit oui, celle qui ne tourne pas la tête, celle qui ne dit pas non, elle applaudit les hommes. Alors que nous, les femmes, une fois formées, nous savons que la femme est là pour défendre d'abord et tout d'abord la cause de la femme.
Et quels changements ces formations ont apporté dans votre vie socio-économique et politique?
Dans ce cas-là, je ne peux prendre que l'exemple sur moi-même. Parce que moi, Marie, la formation que j'ai eue avec CAIR m'a permis d'être une vraie femme leader. Et leader, pas politique seulement, mais leader sur tous les plans. Donc, ça fait partie des avantages des formations que nous avons reçues. En plus de cela, nous n'avons pas peur, nous, femmes MMD, de nous exprimer en face d'un public, quel que soit le public. Parce que souvent, en campagne, on dit que la femme ne peut pas s'exprimer devant les hommes. Elle a honte, pour ne pas dire elle a peur. Et une femme aime Dieu, je suis certaine que c'est quand il n'y a pas de thème d'expression qu'elle ne peut pas s'exprimer. La femme aime Dieu connaît mieux ses droits que les autres. L'exemple que le docteur a donné, les 540 élus sur 279, donc à peu près 50%, des femmes élues en 2011 sont des femmes MMD. Pourquoi MMD? Parce que ces femmes-là ont montré et démontré qu'elles peuvent. Et c'est ce qui a fait que même dans le village, ce sont elles qui sont proposées pour être candidates. Et pas le village seulement, même en ville. En 2004, j'étais candidate. Et quand j'étais candidate, Niamey voulait faire de moi candidate. Et chez moi, là-bas, à Zander, on voulait faire de moi candidate. Vous savez ce que je me suis dit? Je veux partir chez mon père. Donc, je me suis posée comme candidate à Zander. Et c'est candidate à la députation législative. Paf, un oncle aussi voulait. Nous avons discuté. Et qu'est-ce qui a remporté? C'est l'oncle. Parce que la famille s'est ruée sur moi. Et à partir de là, lui, il est devenu candidat à la députation. Tenez-vous bien, tout le monde voulait voter pour Marie. Il est devenu candidat à la députation, il n'a pas réussi. Moi, je suis devenue candidate au municipal, je suis passée. Mais ça m'a servi de leçon. Pourquoi j'ai laissé? C'est parce que c'est là-bas. À Niamey, là, vous croyez que quelqu'un va me poser encore une candidature, donc, pour me demander de retirer?
Quel est le gap qui persiste entre la formation et la réalité sur le terrain?
Ce gap persiste parce que, le plus souvent, après avoir reçu une formation, vous voulez mettre en application tout ce que vous avez reçu. Et il y a les obstacles. Voilà. Il y a la réalité sur le terrain, ce n'est pas ça. Mais une fois que vous avez reçu la formation, ça, c'est à vous de manipuler cette formation-là reçue pour avoir un résultat positif. Quel que soit l'obstacle qui va se poser devant vous, vous saurez contourner les obstacles pour atteindre le but.
Vous personnellement, quel était votre secret pour surmonter ces obstacles?
Là, je ne peux pas dire mon secret au studio, mais sachez que nous avons eu des obstacles. Comme par exemple, on était parti en élection en 2011. Je suis candidate en 2011 en tant qu'élue municipale de la ville de Niamey. Je suis élue. Et il y a les textes qui disent que tu ne peux être maire que quand il est conseiller de ville. À ce titre-là, j'ai dit, mais pourquoi ne pas chercher? Surtout qu'il y a un parti qui a jusqu'à 4 arrondissements et je fais partie des membres de ce parti-là. Mais sur 4, on peut donner quand même un poste à une femme. Je me suis ruée, j'ai écrit, j'ai dit que bon, j'aimerais être maire dans notre arrondissement. Tout le monde s'est rué sur moi. Je vous jure, mon président du parti qui est venu me demander de retirer ma candidature parce qu'il a tellement de gens qui viennent lui demander à ce que je retire. Il sait que je suis capable. Je dis, président, vous savez que je suis capable. Alors là, je ne retire pas. Pourquoi vous allez suivre les autres? Il dit qu'en politique, c'est la masse qui l'emporte. Je dis, aujourd'hui, là, ce n'est plus la masse qui l'emporte. C'est la capacité de pouvoir faire qui va l'emporter. Mais malheureusement, la masse l'a remporté. Parce que je refusais de retirer ma candidature de moi-même. Ma candidature a été retirée par la coordination de zone. Donc, vous voyez ce que cela fait. Quand on a demandé de faire les élections en 2011, vous savez que la plupart des candidates ou bien des élus de 2011 étaient partis pour ne pas revenir. On avait tellement posé des obstacles à ces femmes-là et à ces candidats-là, hommes et femmes d'ailleurs, que la plupart n'allaient pas revenir. Heureusement que les élections n'ont pas eu lieu. Parce que vous savez qu'on ne va plus se laisser faire.
Revenons dans ce studio pour continuer le forum. Docteur Zainou, vous avez quelque chose à dire par rapport au GAP?
Dans notre rôle d'accompagnement, je dirais 1000 femmes, c'est rien du tout par rapport aux besoins de tous les pays. Donc, ou 140 ou 40, c'est vraiment très minime. Mais un autre aspect que nous avons constaté et que je partage avec toute organisation ou institution qui aimerait mettre en place quelque chose pour accompagner les futures candidates, d'un espace d'information continue avant, pendant les élections, parce que les femmes se sont confrontées à des questions. Parfois, c'est des questions liées aux lois. Vous savez, les lois, même si vous avez une certaine connaissance de ça, une lecture, ce n'est pas toujours que vous maîtrisez tous les contours. Et parfois, vous avez besoin de faire recours à des experts. Parfois, les femmes ont besoin d'avoir ce numéro vert qu'elles peuvent appeler, particulièrement pendant les élections ou un peu avant les élections, pour poser certaines questions et avoir des réponses claires des gens à qui elles font confiance. Parce qu'au sein de leur formation politique, parfois, on leur donne des informations auxquelles elles ne font pas confiance ou qui sont pas exactes, ou c'est fait exprès, ou c'est fait par méconnaissance. De toute façon, ils ont besoin d'une voix à laquelle elles ont confiance et qui connaissent. Mais en même temps, je pense qu'une des choses qui aiderait beaucoup, c'est d'avoir une sorte de, pas seulement un conseil technique, quelqu'un du point de vue juridique qui peut dire oui, cette loi a dit ça, le code électoral a dit ça, la charte des partis politiques a dit ça. Ça, c'est ce qui est dans les textes. Mais en plus, qu'est-ce que je peux faire face à la pression familiale? Qu'est-ce que je peux faire face à la pression du parti politique? Toutes ces manipulations, je suis sûre que ce n'est pas seulement les femmes qui vivent ça. Les hommes aussi qui sont dans les partis politiques vivent ce type de pression. Avoir un espace dans lequel on a des conseils de ce type qui permettent à la personne d'avoir le courage de négocier. Parce que l'idée n'est pas de te mettre en confrontation avec ta famille ou ta formation politique, c'est parce que c'est grâce à elle que tu es là. Mais l'idée de savoir comment négocier cet espace, avoir ce soutien qui permette de le faire.
Docteur Zenou, qu'est-ce que le coaching, comment ça marche?
Alors le coaching, c'est comparable à une marche d'escalier qui permet à celui, celle qui donne le coaching, à la personne qui est coachée, d'avoir une marche sur laquelle il faut s'appuyer. On ne fait pas les choses à la place de la personne. On aide la personne à faire les choses du meilleur qu'il peut, tirer de son potentiel, du potentiel autour d'elle pour accompagner la personne. Parfois aussi, ça nécessite plus de temps. J'avoue que parfois, ça me fait plaisir, hein, j'apporte. Mais je me rappelle, une dame m'a dit une fois, mais tu sais les conseils que tu nous donnes, même en dehors du travail, parfois quand on t'appelle à des heures, du soir, le matin très tôt, le soir très tard, on te demande des conseils, tu donnes. Donc, ça demande une certaine disponibilité, une certaine confiance entre les personnes coachées. C'est le travail qui nous a mis en contact avec ces personnes, mais dans beaucoup de cas, c'est devenu des liens d'amis critiques, je dirais. Nous sommes dans une position où nous sommes obligés de dire à la personne, tout n'est pas toujours rose, attention, ce pas que tu as fait n'est pas le bon pas, mais aussi il faut que tu sois alerte, attentive. Donc, parfois, ça peut devenir une attitude de conseil critique, vraiment.
Et vous avez construit des réseaux de femmes. Est-ce efficace? Comment aller plus loin? Existe-t-il déjà un cadre d'échange disponible?
L'organisation est importante. Pour moi, si les femmes sont organisées dans une structure, elles peuvent aller de l'avant. Les fédérations des femmes MMD, aujourd'hui, il y en a 30. Je pense que toutes ces fédérations ont inscrit dans leur plan d'action de travailler pour améliorer la participation politique des femmes. Nous avons aussi travaillé sur femmes élues locales pour les constituer avec d'autres partenaires comme UNICEF, ONU Femmes, pour les constituer en réseau des femmes élues locales. Mais aussi avant ça, nous avons travaillé pour mettre en place des réseaux des femmes élues dans chaque région du Niger. Et ceci vraiment, à mon avis, fait partie des choses qui ont suscité les candidatures des femmes qu'on a eues pour 2016. Et je pense que ce sont des choses qui doivent continuer et se renforcer.
Et Nafisa, est-ce que votre structure collabore avec d'autres structures ou bien comptez-vous vous mettre en synergie avec d'autres?
Pour le moment, COFEMEB est lié à l'ONG FAD. Donc, je ne sais pas, peut-être avec le temps, on va s'aligner au niveau de certains réseaux ou certaines alliances. Pourquoi pas collaborer avec CARE International, qui je vois déjà faire les mêmes choses que nous, où nous faisons les mêmes choses. Tout de même, c'est toujours le même but, le même objectif, arriver vraiment à une promotion de la participation politique des femmes.
L'union fait la force, comme
l'union
on dit.
L'union fait la force, voilà.
Marie, que pensez-vous du coaching? Êtes-vous satisfaite à... Pensez-vous qu'il faut aller plus loin dans le coaching?
Dans le coaching, on a besoin à ce que les choses aillent beaucoup plus loin. Nous dérangeons, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a un petit problème, vous appelez, vous demandez conseil, vous comparez si vous avez plusieurs coachs et vous triez pour prendre la meilleure des propositions de solutions. Mais sachez que nous avons besoin de la continuation de la structuration de la femme d'abord. La structuration des femmes, que ça ne s'arrête pas juste au groupement, au réseau et même à la fédération communale. Pourquoi ne pas aller à la confédération nationale? Que les femmes soient soudées, il faut qu'il y ait un cadre dans lequel ces femmes-là soient soudés. Et je pense aussi qu'il faut une synergie d'action dans les interventions des uns et des autres, surtout des structures qui accompagnent les femmes. Sinon, il y aura duplication dans les méthodes d'intervention. Si une fois les partenaires se mettent ensemble pour voir, nous, vous, par exemple, FAD et CAIR, voilà ce que vous faites, voilà ce que nous faisons, on peut se compléter pour que les femmes bénéficient un peu plus de ce qu'elles sont en train de bénéficier. Nous nous avons besoin maintenant à ce que la structuration des femmes MMD ne s'arrête plus au niveau des caisses, que les femmes cotisent leurs propres fonds et qu'elles se les partagent, parce que c'est devenu un peu plus lourd, qu'elles aillent de l'avant pour que ces femmes MMD soient des femmes entrepreneurs, pour que le niveau coaching économique soit la femme, qu'il y ait de l'entraide économique entre les femmes. Sinon, ce sont les hommes qui nous aident financièrement et nous avons toujours des difficultés. Parce que quand l'homme finance tes activités politiques, tu es obligé de te plier. Donc souvent, on est limité parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Donc, nos coachs, nous voulons assurer que les choses aillent sur toutes les ramifications pour que la femme soit politiquement capable de réussir.
Vous venez de suivre le forum sur l'impact de la formation et le coaching des femmes. Il faut retenir que la formation et le coaching ont joué un rôle important dans l'émergence de la femme nigérienne, en ce sens qu'ils ont permis aux femmes de renforcer leur capacité à leadership, d'avoir confiance en elles-mêmes, de s'affirmer politiquement et même de se porter candidate aux élections. Mais il reste du chemin à faire. Nous sommes au terme du forum du studio Kalangu. Nous étions avec Dr Zainou Fatouma, chargée de programme au niveau de CARE International. Nous étions avec Mme Anafissa Idé, coordinatrice de l'ONG FAD. Nous étions avec Mme Gambo Mariama, présidente de la Fédération Bayre Niamé Commune 3. À la présentation, c'était Balkis Amidou, à la technique Hussein Issaka. Merci à nos invités. Merci à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangu.